Mais vous faites ce que vous voulez,
on fait ce
vous êtes
veut.
Libre, parce que ce qui est quand même important, c'est que vous êtes des humains responsables, et que moi je n'y ai aucune part.
Jusqu'à demain, c'est Supersonique, bonsoir à vous. Nous intéresse et tout autour de nous, on ne s'en rend pas toujours compte, l'oreille humaine a ses limites et même le son parfois est invisible, vibration des machines, infrabasses ou mieux, le ventilateur sait se faire discret, mais c'est bel et bien là, effet sensible indéniable, ce qui nous intéresse et tout autour de nous. Culture à ces machines. Les machines ont leur culture. Ce soir, nous parlerons de Frasque, rencontre de la performance à Gentilly, à côté de Paris, dans ce très beau lieu qui s'appelle le Générateur. Et avant ça, il va être question des 20e rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, dont le slogan cette année est le suivant, les oreilles ont la parole, et ça, c'est pour nous. Salut les androïdes, et bienvenue dans Supersonique. Thème d'ouverture, intitulé Opening Theme, justement, thème d'ouverture, signé Otomo Yoshihide, compositeur japonais. Là, il s'agit de la bande originale d'un film qui s'appelle Prisoner, Otomo Yoshihide, musique expérimentale et son du réel pour ouvrir cette émission supersonique ce soir. Et notamment la première partie à propos des rencontres du cinéma documentaire, donc 20e édition, où le son aura une place toute particulière, ça se passera au cinéma Le Méliès, donc à Montreuil, Les oreilles ont la parole, c'est le sous-titre, Otomo Yoshihide qui apparaît dans votre film, Cédric Dupire, bonsoir.
Bonsoir, oui, tout à fait, c'est un des musiciens japonais qui est dans les musiciens du film avec d'autres comme Sakamoto Hiromichi ou Yamakawa Fuyuki.
Ce film s'appelle We Don't Care About Music Anyway, c'est un film de 2009 qui sera donc projeté à Montreuil pour les rencontres du cinéma documentaire. À côté de vous, il y a Noah Garcia, vous êtes co-auteur du film, on peut dire ça?
Et bonjour.
Bonjour, bonsoir. Vous avez presque servi de guide pour ce film-là.
C'est ça, j'ai servi de lien en fait entre les musiciens et les réalisateurs.
Notamment, moi en tout cas, Otomo Yoshihide qui est le musicien peut-être le plus connu du film. Quoi. C'est Noah qui me l'a fait découvrir dans des petits clubs cachés de Tokyo.
Oui, la question du cachet, du clandestin, on va, je pense, en parler en discutant de votre film dans un instant. C'est du pire, ce film, donc, co-signé avec Gaspard Kunz. Donc, il date de 2009, et il y a un film qui date de 2015 qui s'appelle « Je me suis mis en marche », donc tout récent, c'est le vôtre, Martin Verdet.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui. Là, c'est une rencontre à la fois d'un texte et puis d'un poète, c'est Franck Venaille, qui est aussi homme de radio, d'ailleurs, qui est au centre du cadre même de votre film.
Voilà, le défi, c'est de partir d'un texte donc poétique qui est d'emblée extrêmement compliqué en cinéma. Et du coup, c'est cette espèce de croche-pied, cette espèce de complexité qui m'a intéressé pour ben, faire table rase de ce que peut devenir l'illustration et, et ensuite s'exprimer avec des images et du son. C'est-à-dire que le sujet du festival est complètement fondamental. Cette histoire du son, parce que quand je monte un film sur les séquences, je me dis, mais est-ce que cette séquence me sert pour ce qu'on y entend ou pour ce qu'on y voit? Et à partir de là, la grande majorité des images qu'on peut voir autour de nous, l'un est redondant par rapport à l'autre. Et en fait, la créativité commence à émerger quand on s'est vraiment posé cette question. Et en fait, chaque fois que des grands cinéastes l'applique, voilà, il faut aller triturer l'un et l'autre, et c'est la friction de l'un et de l'autre qui
peut même commence à faire des solutions parfois. Quand vous parlez de la complexité de votre film, justement, de faire la descente de Lescaut, c'est le texte de Franck Venat, et en faire un film, et en même temps, c'est un huis clos, donc on est justement dans cette problématique-là, comment faire entrer le réel dans la pièce, enfin voilà, et le son est une clé.
Voilà, la pièce, elle va, c'est-à-dire que on ne sait pas simplifier les choses, puisqu'il y a trois hommes dans la pièce. Il y a un enfant, il y a le marcheur, parce que Franck, quand il a su qu'il était gravement malade, il est allé plonger sa main dans la source d'un fleuve et il a descendu 400 km jusqu'à la mer. Et donc, c'est la base de son travail. C'est-à-dire qu'il est... J'ai envie de dire, ce n'est pas quoi qui compte, c'est comment. Mmh. Et donc, Franck marche, il a une fureur, une colère, une peur en lui, parce qu'une maladie le guette. Et il invente en marchant un poème. Moi, je rencontre ce texte qui parle d'un mouvement, qui parle d'une création. Je suis moi-même complètement en panne depuis 3 ans au moment où je lis ce livre. Donc je me dis que c'est le point de départ. C'est un départ qui est suffisamment simple. C'est-à-dire qu'il y a tout à inventer, puisque c'est bien le sujet du livre, il invente tout. Donc, c'est tellement radical qu'il y a une invention possible. Donc là, Franck s'est vite joint à Laurent Zizerman, le comédien, et Gaël Técher, le producteur, où on a fait une table ronde, et en fait, chacun devait surprendre les autres, en poussant chaque fois le bouchon le plus loin possible. Et un jour, Franck a dit, mais Lescaut, qui est le fleuve, qui est tout le fil du film... Et il a dit, Lescaut devrait couler rue de Vaugirard. Et du coup, ça a été le point. C'était suffisamment culotté pour qu'on n'imagine même pas une fois aller le long de Lescaut, puisqu'il s'agissait d'un autre cours. Et du coup, on n'est plus jamais ressorti de cette pièce. Et on a très vite compris que le sujet, c'est la poésie. Que si on fait confiance à cette poésie, elle a une puissance d'évocatrice. Que si on se met à l'illustrer, on triche, parce que c'est comme si on lui faisait pas suffisamment confiance. Donc le sujet va très vite basculer, non pas vers l'illustration, mais vers l'écoute. Comment faire entendre? Et c'est un sujet qui est fondamental et qui est très, très, très compliqué.
Et c'est le sujet fondamental et c'est même le point nodal, sans doute, une des grandes questions de ces 20e rencontres du cinéma documentaire à Montreuil, dont le sous-titre est donc « Les oreilles ont la parole ». Corinne Bob, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la programmatrice du festival. Alors voilà ce que vient de raconter Martin Verdier sur les prémices. On y reviendra, Martin Verdier, sur les prémices de votre film et sur le contenu de « Je me suis mise en marche ». Ça, c'est une des grandes questions posées par cette thématique-là.
Oui, exactement. C'est-à-dire que ce que j'ai cherché dans l'ensemble des films, ce sont des films qui ne sont pas des films musicaux. C'est pas ça le souci, ou des films où le travail du son a été important, parce qu'il y en a énormément, bien sûr. Mais ce sont des films où le spectateur prend conscience de son écoute. Je ne sais pas si Daniel Day vous l'a dit, mais Daniel Day dit « le son, il n'existe que quand on en a conscience ». Le sonore n'existe que dans sa conscience. Mais ça, je ne l'avais pas lu, parce que je suis un peu ignorante, j'en suis désolée. Mais voilà. Je ne l'avais pas lu, mais je l'avais senti. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est quelque chose de l'ordre de la conscience du spectateur qu'il s'agit de mettre en jeu. Et les films que j'ai choisis sont là-dedans.
Bah, vous parlez de Daniel Day, qui est donc un grand enseignant du son, qui est un ingénieur du son, qui connaît très bien le documentaire, qui intervient notamment au sein des ateliers Varan, qui est un lieu de documentaire en France, et puis dans certains festivals. Il se trouve qu'il est effectivement passé par ici il y a quelques jours, et on a pu lui poser quelques questions, effectivement. Il est prévu d'ailleurs qu'il intervienne le 9 octobre, Daniel Day, lors du festival. Il défend effectivement l'idée que le son et l'image sont là pour se renforcer l'un l'autre, et non pas pour redonder. Pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, Martin Verdet, et en particulier évidemment quand il s'agit de la représentation du réel. Daniel Day était ici, on l'écoute.
Moi, la chose qui me paraît la plus importante et que j'essaye d'amener, c'est de se dire que le synchronisme n'est pas obligatoire. Et ça, c'est, je crois, on a toujours pensé que le cinéma était avant tout synchrone parce que c'était le grand progrès du cinéma au lendemain du muet. On se rend compte en regardant les films qu'il y a une grande part à l'intérieur des films qui n'est pas synchrone. Tous les contre-champs, toutes les choses comme ça, c'est pas synchrone, même si c'est le son qui existe à cet endroit.
Ça veut dire que l'événement sonore n'est pas synchrone, mais n'arrive pas en même temps qu'avec quelque chose qui se passe à l'image. C'est
voilà.
Ça, c'est le synchronisme.
Et du coup, on a la possibilité donc de travailler le son en dehors de ces instants de synchronie et donc de penser la construction du film de manière, enfin, avec une grande liberté sur le son, beaucoup plus grande qu'il n'imagine. Donc souvent, les cinéastes se sont mis sous la contrainte de ce synchronisme qui, évidemment, limite la procédure et limite le champ et la diversité des abords. Mais à partir du moment où on dit, eh bien, et par exemple, j'ai fait un stage à Varan qui commence comme ça, qui part, on se dit, bah, on commence avec le son. Et on va ensuite voir comment on rentre les images, quelles images, combien d'images pour le son, combien de sons pour ces images et comment ces sons vont s'ancrer, vont jouer ou déjouer le regard. Et à partir de ce moment-là, c'est une autre poétique, c'est un autre temps, c'est une autre rythmique, c'est une autre structuration du récit et des formes. Et là, le cinéma s'ouvre. Le cinéma, comment dire, c'est... Là, on a 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire un son plus une image donne une relation. Hein. Et alors que quand on a des éléments synchroniques, 1 plus 1 égale 1. Et on ne peut pas s'en tenir là non plus.
C'est-à-dire qu'il y a des circonstances techniques, technologiques, Daniel Day, qui font qu'aussi on peut comprendre que pendant longtemps, à partir du moment où on a pu tendre le micro, on l'a tendu et on voulait faire entendre ce qui se passait à l'image. Maintenant, effectivement, la technique est, on va dire, acquise. Il y a une évolution aussi des choses et notamment une écriture sonore qui est possible. Ce que vous dites, en fait, c'est si on fait entendre, si on travaille le son qui se trouve hors champ, en dehors de l'image, quand vous dites 1 plus 1 égale 3, dans ces trois-là, il y a l'espace, par exemple. Et on crée un espace mental même pour le spectateur.
Oui, et même, alors c'est étonnant là, parce que j'ai vu, récemment j'ai revu au cours d'un colloque cet été, un film justement où il y avait dans un plan énormément de vent, par exemple. Et je me suis dit, mais dans ce plan, finalement, c'est le son qui l'emporte. Et c'est très étonnant, c'est que c'est dans ces moments-là où on se rend compte de l'autonomie du son, c'est-à-dire que c'est un autre. C'est-à-dire que même s'il y a du synchronisme, ce n'est pas pour autant que le son est sous les images. Il est avec les images. Alors c'est vrai que c'est toujours le son des images. Hein, même si on prend un son qui n'a rien à voir avec la scène, à partir du moment où on le ramène sur une image, ça devient le son de l'image. Mmh. Donc c'est toujours un son qui nourrit les images. Et en ce sens, moi ça me pose aucun problème, mais c'est en ce sens qu'on peut s'écarter et qu'on peut s'en écarter d'autant plus que évidemment, le sens s'ouvre, que la multiplicité, la pluricité du sens s'ouvre énormément. Ouais.
Est-ce que vous avez l'impression, Daniel Day, que la génération, je ne sais pas si la jeune génération, en tout cas la génération avec laquelle vous êtes en contact à travers les ateliers notamment que vous animez, vous parlez des ateliers Varan, c'est aussi vrai, je crois, au festival de Valence où vous animez des ateliers de ce type-là, avec cette question-là du son et de l'image, de ce 1 plus 1 égale 3, est-ce que vous avez l'impression que cette génération-là est curieuse ou plus curieuse du son dans ce travail documentaire filmé ?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que souvent, les gens ne se rendent même pas compte de l'existence du son. Et en fait, quand, moi, je remonte beaucoup d'extraits de films, et même depuis Lang, par exemple, depuis Fritz Lang, où son travail sonore est extraordinaire, parce qu'il est à cheval entre le muet et le sonore, et où là, il scénarise avec le son. Et quand je leur montre ça, ou quand je leur montre en quoi, par exemple, deux versions sonores différentes des mêmes images, comme on a dans le début de Stalker, dans la version mono, ou la version qui a été remixée et qui est épouvantable, eh bien, on voit à quel point le sonore travaille les images et transforme complètement la perception. C'est le lieu du toucher, c'est le lieu du sensible, c'est le lieu vraiment de quelque chose qui nous prend au corps. Et alors, je leur désigne, parce qu'évidemment, on n'en a jamais conscience. C'est ça la question, en fait. C'est que la conscience du sonore n'apparaît pas toute seule. Donc, mon boulot, c'est de leur montrer et de leur dire...
C'est mettre le doigt dessus.
Voilà. Regardez, écoutez, et puis ensuite, de leur donner un magnéto, d'aller faire les sons, de les écouter ensemble avec les autres pour ne pas les écouter comme il les écoute tout seul, parce que quand on écoute avec d'autres son propre travail, on ne l'écoute pas de la même façon. Et puis, voilà. Et puis ensuite, de construire des images dessus. Et à partir de ce moment-là, là, il y a quelque chose qui bascule chez eux et où ils se disent « Mais c'est incroyable, pourquoi je n'ai jamais pensé à ça ?» Et je me souviens d'une monteuse qui m'a dit « Mais moi, ça fait 30 ans que je monte et c'est la première fois que j'entends vraiment, que je me rends compte que je ne n'avais pas entendu. » C'est-à-dire qu'elle travaillait toujours sur le son par défaut. C'était le son de l'image, du plan. Voilà, on dérush et puis le son est là. Et puis voilà, et puis il faut bien ramener des sons extérieurs, faire des commentaires, rajouter des petits oiseaux, je ne sais quoi. Eh bien non, là, d'un seul coup, voilà, pour elle, c'était ça. Mais je comprends, parce que tout est fait dans notre organisme pour ne pas avoir conscience de notre écoute. Mm-hmm. C'est notre protection et notre façon de libérer de la conscience à d'autres choses qu'à la conscience de l'écoute.
Les oreilles ont la parole, c'est le sous-titre des rencontres du cinéma documentaire à Montreuil du 8 au 16 octobre au cinéma Le Méliès à Montreuil, donc à côté de Paris. Et à l'instant, c'était qui avait la parole ? C'était Daniel Dehaye, donc grand... presque grand penseur, on peut dire, de la question du son, et en particulier du son à l'image, qui interviendra donc le 9, si je ne me trompe pas, aux rencontres du cinéma documentaire. Et j'ai posé la question à un des réalisateurs qui se trouve autour de la table ce soir dans Supersonic, Cédric Dupire. Vous entendez comment ce propos de Daniel Dehaye ?
Je l'entends. Là, quand j'écoutais, je pensais par rapport à nous, la manière dont on a utilisé le son synchrone.
Ouais.
Parce que pour nous aussi... dans la manière dont on construisait notre narration et dans le rapport et dans ce qu'on voulait montrer des musiciens, en fait, le son synchrone avait une très grande importance parce qu'on s'intéressait directement à la manière dont les musiciens produisent le son. Et on voulait aussi que cette production du son soit liée à un mouvement et à un geste qui était très important. Donc on a mis les musiciens dans des conditions de jeu particulière et justement où souvent c'était vide et il restait plus que ces mouvements ou la situation dans laquelle ils sont, et pour qu'on comprenne vraiment très bien le lien entre le geste et le son qui est produit.
Donc c'est dans We Don't Care About Music Anyway, donc ce film-là qui date de 2009 dont on parle au début de l'émission et qui est une plongée en fait à la fois dans le monde des musiciens, on peut dire expérimentaux japonais et de Tokyo en particulier, mais plongée aussi dans la ville de Tokyo elle-même.
Exactement, et ça c'est le deuxième point un peu sur la manière où on a utilisé le son justement de façon non synchrone, quoi. C'est qu'on a eu du coup cette approche sur les musiciens et leur production du son, et à l'inverse, donc là ils étaient souvent isolés, et à l'inverse, quand on montrait l'environnement dans lequel ils vivaient et la ville, ils apparaissaient pas dans cet environnement, et leur musique était jouée sur des choses très loin de leurs gestes, et souvent aussi quand la ville apparaissait et que le son était plus synchrone, on se permettait d'ajouter de nombreuses couches de sons, notamment de sons enregistrés dans la ville ou de musique d'autres musiciens qui viennent se mélanger, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai jamais trop réfléchi au fait que vraiment toutes ces scènes-là souvent ne sont pas synchrones, et à l'inverse, quand on filme les musiciens, c'était synchrone. Donc ça faisait pas mal de sens, en fait.
Noah Garcia, co-auteur du film.
À propos donc de ces scènes, je pense qu'en fait on voulait absolument non seulement montrer le geste donc de créatif, mais aussi comment dire se justifier d'une authenticité, d'une véracité. Ça veut dire qu'on n'avait pas rajouté trop d'artefacts, trop d'artifices autour.
Voilà, ouais.
Voilà. Que le son performé dans, au moment où il l'a été, était donc retranscrit donc, de la manière la plus directe possible, et, en tout cas pour ces scènes performées. Quoi. Donc à l'inverse, c'est donc Tokyo, on va dire le Japon en général, mais Tokyo aussi, a un environnement sonore très particulier, avec plusieurs éléments donc, qui choquent généralement les gens qui y vont pour la première fois. Mais une des choses qui ressort beaucoup, ce sont en fait les voix enregistrées. Il y a des voix donc, automates, donc, enregistrées, synthétiques, à peu près partout.
Qui et vous jouez avec dans le film, d'ailleurs.
On s'en sert énormément. Mais ça, ça fait partie en fait, des choses dont on, en habitant là-bas, s'accommode complètement. Mm-hmm. Et donc finalement, ça, ce genre d'éléments sont rappelés à nous par donc, en fait,
des oreilles extérieures, des réalisateurs. Ouais.
Il faut se mettre dans la tête que c'est complètement presque outrancier le nombre de sons. Je veux dire, la machine, l'ATM, le distributeur de billets parle, l'ascenseur parle, la voiture parle, enfin tout le monde parle, enfin tout le monde vous parle. Et finalement, les gens se parlent assez peu aussi. Donc il n'y
a plus besoin.
C'est pareil, ça, là, voilà, tout à fait. Et donc, ça, c'était donc à l'origine, à mon avis, donc, du fait qu'on ait mis donc, tous ces sons et mixé ces sons pour donner un environnement, une espèce de couleur sonore.
Et sans forcément une synchronie avec l'image, ouais, et tout en fait. Étant quand même dans la représentation sonore de ce que peut être Tokyo, d'une part, et d'autre part, donc, il y a la question de la composition, des compositions signées par les musiciens qu'on voit et qu'on voit parler aussi dans ce film We Don't Care About Music Anyway. Bah, je vous propose quand même qu'on se plonge dans l'identité musicale du film pour savoir de quoi on parle.
Thomas Baumgartner est supersonique sur France Culture.
Bah oui, c'est du radical, hein, c'est même tout le propos de la chose. Là, c'est Long Waves Radio, Turntables and Modified Guitar qui fait partie donc, de la bande originale ou de la bande-son du film. Vous voulez intervenir, Cédric Dupire ?
Ouais, alors juste je vais intervenir sur ce que je voulais dire après. Là, c'est une pièce encore de Otomo Yoshide.
Quoi. Ouais.
On l'avait, en fait, pour chaque musicien, on a essayé de trouver un lieu spécial qui correspondait plus ou moins à sa musique, ou en tout cas une forme de sa musique.
Qui peut être une casse, une décharge. Enfin, il y a quand même aussi une décadence dans l'air, quand même, pour, quand il s'agit des décors de ces musiques, non ?
Ouais, en fait, on voulait créer plus ou moins un univers post-apocalyptique où les musiciens seraient les seuls survivants de la Terre qui se serait autodétruite, et qu'à travers leurs gestes musicaux, leurs actes musicaux, ils rappellent le monde actuel, la surcharge et sa vanité. Et donc Otomo Yoshide, les conditions dans lesquelles il a fait sa performance, c'est qu'on l'avait positionné dans une décharge de métaux, de recyclage de métaux, et on lui avait demandé si, bien sûr avec son accord, en discutant avec lui, s'il pouvait ramener trois outils qu'il utilisait souvent dans ses performances, sa guitare, sa vieille guitare de l'époque de Grand Zero.
Guitare fabriquée par ses soins.
Une radio et une platine de disque, parce qu'il joue aussi de la platine d'une manière assez particulière. Souvent, il n'utilise pas de disque, où il transforme l'aiguille, le diamant. Et donc, en fait, il avait positionné dans l'espace à des endroits assez éloignés ces trois éléments, quoi. Et du coup, quand il a commencé par la platine, à jouer de la platine, et après, il est parti à la radio, et la platine continue à moduler derrière lui sans qu'il ait plus d'action. Et pareil avec la radio, et bon, la guitare, si parfois, c'est même arrivé qu'il laisse des objets en balancement dessus. Donc, c'était comme si lui se baladait d'un instrument à un autre en même temps que les instruments continuaient à jouer.
Dans ce film-là, il y a une forme de réunion, on dirait souterraine, clandestine, de plusieurs compositeurs et musiciens japonais. film en noir et blanc. Quelque chose pour ça, je dis cet effet de clandestinité dans, un peu dans le noir. Voilà. Et le propos est très fort. C'est-à-dire que c'est là que le propos articulé, on va dire, non musical, non directement musical, mais évidemment sur la musique, a lieu. Et là, c'est du propos politique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce qui est défendu, c'est, enfin, c'est une conversation entre amis aussi, hein, c'est cette forme-là, c'est quelque chose de très naturel. C'est... la défense d'une pratique, on va dire, marginale, en fait, de ce type de musique, c'est-à-dire qui n'a pas vocation à être une, de la musique pop, on va dire. Et pourquoi cette musique existe aujourd'hui? Comment elle existe aujourd'hui au Japon, dans un Japon d'après-crise aussi? C'est ça le propos, non? Cédric Dupuy.
Oui, ça fait partie du propos. Après, chaque musicien n'a pas du tout ce même point de vue sur son activité, qu'il voit de manière plus ou moins politique, ou parfois pas du tout, et juste amusé. Et voilà, après, nous... En tant que, on s'est intéressé à ça et on y a vu des raisons à la fois dans le côté assez extrême de la société. Et après, il y a une certaine culture de l'objet, d'essayer d'aller très loin dans sa radicalité et jusqu'à construire ses instruments, entre autres.
Martin Verdet.
Oui, moi, je veux rebondir sur le versant politique, c'est-à-dire que là, la problématique du festival est passionnante. Et ce qui est plus que désolant, c'est le contexte dans lequel sont fabriqués la plupart des films qui sont dans cette programmation. Et la fenêtre aujourd'hui de comment nous travaillons, comment travaillent les producteurs. Ouais. Et cette problématique du son, on s'en rend bien compte, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut se poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'il faut risquer ce travail. Et qu'aujourd'hui, le contexte, on va dire la télé publique et privée, ne participe absolument pas à cette éducation de l'oreille. C'est-à-dire que j'avais reçu un mail l'année dernière sur 250 films français qui ont été sélectionnés dans les meilleurs festivals internationaux. Deux étaient produits par la chaîne publique France 2 ou France 3. C'est-à-dire que il y a un désengagement total. Et donc, voilà, il faut savoir que cette problématique du son, elle est passionnante, mais qu'il y a une infime partie des producteurs aujourd'hui qui se posent vraiment ces questions, qui travaillent vraiment dans des conditions compliquées. Et que nous autres, on est... Ben, voilà, il faut choisir son camp, mais le camp est complexe, quoi. C'est...
Corinne Bopp, vous qui êtes programmatrice des rencontres du cinéma documentaire donc de Montreuil, qui sont le sujet de ce soir dans Supersonic, c'est dynamique le documentaire d'auteur en France?
C'est pauvre et dynamique.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'où la corde pourrait être tirée.
Parce que c'est, c'est les 20 ans des rencontres, donc vous avez pu voir les choses évoluer.
Alors, les rencontres, vous savez, c'est organisé par une association qui s'appelle Périphérie, et qui, depuis plus de 30 ans maintenant, agit dans le 93 pour promouvoir le documentaire. Le fait que nous existions toujours montre qu'il y a une volonté politique, elle est dans le 93, hein, entendons-nous, de politique culturelle forte pour que nous existions, et on existe grâce à ça. Mais ce que dit Martin, moi, je le vois, bien sûr. Je le vois, je vois les difficultés des réalisateurs que j'invite. Je vois les difficultés à faire le cinéma documentaire que je défends, que nous défendons tous. Et je suis immensément, là je peux le dire là, hein, je suis immensément et reconnaissante et admirative du courage des réalisateurs. Enfin, voilà, je le dis devant eux vraiment et dans les yeux. Hein, et des producteurs qui continuent à faire des œuvres personnelles, fortes, alors qu'effectivement, et là Martin a absolument raison, et depuis 10 ans, il y a une dégradation terrible, hein, vraiment terrible, les conditions sont de plus en plus dures.
C'est cela la vérité. Je marchais pour me connaître, allant à la poursuite d'un rêve dont je m'étais fait un but. Le fleuve devint plus large, je ne gênais personne. Durant tout ce voyage, je n'eus d'autres compagnons comparses que moi. Voilà ma vérité. On démarre on se saisit du fonctionnement de son corps. Ensuite, il est impossible de revenir sur ses pas. Question de principe. C'est cela la vérité. Je marchais pour me fuir, empêtré de moi-même. Je marche pour tenter de comprendre les raisons de ma fuite. Je songeais à cela sur mon lit de marcheur affamé.
Ce que j'ai pu en dévorer de péniche à quai, sur l'eau, croyez-moi, elles vont trop vite. Et aucun être normalement constitué ne peut, avec ses deux mains, les atteindre, s'en saisir, les ingurgiter. C'est cela la vérité. Avant de me coucher,
voilà, on va quand même continuer à parler de votre film, Martin Verdet, Je me suis mise en marche, donc qui est, fait partie des films projetés aux rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, donc qui commence le 8 octobre. Vous nous l'avez présenté tout à l'heure, ce film inspiré sur, avec Franck Venaille, poète et homme de radio, il faut le dire, qui a travaillé dans cette maison, sur France Culture, dans Les Nuits Magnétiques, qui a produit plus d'une centaine d'émissions dans Les Nuits Magnétiques. Il en est, il y a des allusions à ça, d'ailleurs, dans le film. Vous parlez c'est lui qui parle de Bruno, les mains magiques de Bruno, je ne sais plus comment il le dit, c'est Bruno Sourcy qui était chargé de réalisation ici, notamment pour Les Nuits Magnétiques. Et dans ce film, donc ce huis clos, où le son finalement, sert d'ouverture, ouvre les portes, ouvre le cadre, et d'ailleurs à différents degrés. Enfin, c'est vraiment une richesse de mise en son, ce film-là, qui mériterait d'ailleurs quasiment une émission à lui tout seul. Il y a un objet qui finalement est la porte qu'on ouvre, c'est le nagra, c'est le magnétophone.
Voilà, ce nagra, vu que je parle d'un voyage et qu'on ne sort pas d'une pièce, il faut... Le sujet, c'est quand même le mouvement, qu'il soit intellectuel ou celui de la marche. Et du coup, ce nagra, puisqu'il dit le passé de Franck, il était à la fois vieillot, mais très juste à cette place. C'est-à-dire que la bande magnétique qui défile, c'est-à-dire que c'est deux bobines qui
tournent.
Qui tournent, oui. L'une se vide et l'autre se remplit. Ils sont le mouvement, le déroulé du parcours, le fleuve, et que j'ai besoin d'un élément qui fait que le paysage défile. Et là, c'est un paysage magnétique. C'est-à-dire que le poète enregistre ce poème. Il l'a fait maintes et maintes fois pendant des années. Il me disait d'une traite. Et en fait, j'ai rencontré la directrice d'un festival le week-end dernier. Et j'étais très touché parce qu'elle m'a dit « Votre film, c'est un tour de force. » Et j'aimerais ici dédier cette force à l'engagement de Franck, son attitude, sa démarche, son engagement était pour nous très impressionnant et entier et rare et fragile, comme les endroits que j'aime voir résonner au cinéma, c'est-à-dire que il y a des prises qu'on n'a pas pu refaire, il y en a qu'on a, et puis il y en a d'autres qu'on a refait 10 fois. Et son, voilà, cette force, c'est la sienne. C'est une force qui nous a beaucoup porté, quoi. Du coup, quand cette force est là, tout doit se mettre à cette hauteur-là, quoi. On va essayer, on va tenter, on va pas le décevoir, quoi. C'est un grand homme, quoi.
C'est une présence impressionnante dans le
film. Donc, faut inventer, il faut être à la hauteur, quoi. Et du coup, comme on fait tomber tout ce qui est illustratif, donc on invente, on amène un flingue, on amène un cheval, on fait une inondation.
Une bruiteuse.
Une bruiteuse, voilà. Ça, c'est une idée d'un des deux ingé-sons qui m'a dit qu'il trouverait ça juste à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est des pas. En fait, elle installe des bassines en plastique, elle verse de la litière de chat, elle mouille du papier journal, et ensuite, elle enfile une chaussure qu'elle actionne. Donc c'est...
Elle, bon, c'est Agathe Courtin, faut le dire. Voilà. Et les ingénieurs du son, c'est Pierre-Vincent Crescheri et Benoît Artaud, c'est ça ?
Oui.
Voilà.
Voilà. comment moi je fais entendre une parole. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit le poème, comme il est magnifique, on va le faire d'un bout à l'autre.
La descente de Lescaut.
Puisqu'il est dans l'ordre et tout ça. Puis en fait, ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire que le rapport qu'on a à la poésie quand on tient le livre devant soi est un rapport aussi intime et particulier que celui qui écoute, par exemple, un morceau de musique. Et donc, si l'image vient polluer cette intimité, il faut tout rejouer.
Ouais.
Donc,
moi, j'ai
complètement démonté le poème. Je l'ai coupé outrageusement. J'en ai beaucoup parlé avec Franck. Il m'a dit, écoute, ce texte est très bon. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, s'il est très bon, il supportera n'importe quelle coupe. Et alors, j'ai mis des poèmes de la fin au début. J'ai tronqué énormément. Et lui n'y voyait aucun inconvénient parce qu'on allait dans le même sens, quoi. Donc,
c'était un homme multimédia, faut dire, Franck Venaille. Donc, en termes d'écriture, il a pratiqué dans pas mal de directions. Corinne Bopp, est-ce que on rencontre les auteurs aux rencontres cinématographiques?
Bien entendu.
Ah, heureusement.
Ils sont là. Je dois dire qu'à la seule exception d'Alexander Sokourov pour l'ouverture, c'est-à-dire un réalisateur vivant, les autres, ceux qui sont vivants, sont là.
Oui, y a aussi une programmation au-delà de tout ça, parce que la thématique des oreilles, du son, les oreilles ont la parole, ça se traduit aussi, si je ne me trompe pas, à travers une programmation, on retrouve du Pierre Schaeffer ou du Tiga Vertov pour aller du côté des ancêtres de la question, mais il y a aussi une balade sonore signée de la créatrice sonore Jeanne Robet, il y a donc on a parlé de la rencontre avec Daniel Day, il y a des gens d'ici, de la Maison de la Radio,
oui,
Hervé Desjardins et Frédéric Changenet qui viennent parler du son en trois dimensions, du son binaural. Il y a un confessionneur, donc lieu de confidence, une sorte de...
Voilà,
ça, comment
où
on peut
les
dire,
spectateurs
un photomaton
sont,
sonore.
C'est quelque chose de cet ordre-là. Des spectateurs sont invités à venir parler de leurs relations intimes, de leurs souvenirs du son.
Et une rencontre avec un compositeur, parce que c'est aussi la musique, le son au cinéma, Martin Wheeler, qui a signé la musique de Michael Kolhaas, d'Arnaud Despalières, dont on avait parlé il y a quelques temps, l'année dernière, dans l'Atelier du son. Et lui, il a reçu le César de la meilleure musique originale en 2014. Donc voilà, rencontrer les gens, rencontrer ceux qui font. C'est ça aussi, les rencontres du cinéma documentaire, 20e du nom. Il y a aussi une programmation spéciale autour du 20e anniversaire. C'est du 8 au 16 octobre au cinéma Le Méliès à Montreuil, juste à côté de Paris, donc en Seine-Saint-Denis. Et évidemment, on met les liens sur le site de Supersonic sur franceculture.fr pour ceux nombreux, on l'espère, qui voudraient aller plus loin. Merci à tous les quatre d'avoir
merci
été là
beaucoup.
Ce
merci
soir dans la première partie de Supersonic. Restez, on continue.
C'est un certain goût du viol. Ça brûle le monde. Notez que je le défame pas. Aujourd'hui, féminisme, voilà, c'était bien. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Même parce que je ne sais pas qui s'occupe de moi. Je préoccupe de moi.
M. Mariet, sans qu'on puisse deviner de quoi. Sa bouche formait des mots, mais leur sonorité était absorbée dans la masse. La masse pulpeuse de son visage bien nourri. Pareil au masque satisfait d'un gilet de binge. Aucun n'était clairement audible. Je suppose qu'elle continuait à énoncer des sentences comme elle le faisait toujours. Ça la faisait rire. Elle en riait toute seule, malgré son cocard. D'un mois sur l'autre, le visage d'Emma présentait toujours un nouveau cocard. Une nouvelle ecchymose quelque part à la bouche, autour de l'œil ou aux ailettes du nez. Ça ne l'empêchait pas de sourire, ni même de rire à gorge déployée. Peut-être même que d'une certaine façon, ça l'y aidait. De toute manière, nous n'y pensions jamais. Ça aussi, nous nous y étions habitués. Nous nous y étions habitués. Nous nous y étions habitués. Nous nous y étions habitués.
Il y a vraiment pas mal de choses bien qui vont nous aider à entrer dans l'automne ces prochains jours. Donc le 8 octobre, on a compris, les rencontres du cinéma documentaire à Montreuil. Et le 3, quelques jours avant, commence Frasque. Frasque, ça s'écrit F-R-A. SQ, rencontre de la performance au générateur à Gentilly, juste à côté de Paris. Bonsoir Anne Dreyfus.
Bonsoir.
C'est vous qui vous occupez du générateur, qui l'avez même imaginé. Et je crois que c'est un lieu assez impressionnant, parce qu'il y a un grand espace. On va en parler de ce grand espace pour ce lieu d'art et d'essai ou d'art et de performance, voilà, comme vous le présentez de temps en temps. Et c'est un ancien cinéma. On continue, on file la métaphore d'une image. Donc là, avant c'était un cinéma, maintenant c'est un lieu que vous investissez. Et Frasque, c'est un des grands rendez-vous du générateur.
Tout à fait. C'est notre temps fort qui se passe donc depuis 7 ans à l'automne. On démarre à chaque fois avec l'événement Nuit Blanche, mm-hmm. puisque historiquement, même si le lieu n'est pas vieux, en 2006, on a inauguré le générateur avec la Nuit Blanche et Frasque est venu seulement en 2009. Ce bâtiment, oui, est un ancien cinéma de quartier qui s'appelait le Gaîté Palace. Mm-hmm. Donc effectivement, le lien là est facile avec nos prédécesseurs concernant l'image et le son.
Ouais.
Et effectivement, c'est défini petit à petit une direction artistique de plus en plus claire, en lien aussi avec d'où je viens, puisque je suis au départ et puis depuis toujours dans la danse. J'étais chorégraphe, interprète et j'ai une compagnie. Mmh. Et la performance est arrivée, ce n'est pas un hasard.
Alors, à côté de vous, il y a Hermeline Vialet. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous vous occupez, vous êtes dans l'équipe, l'équipe dynamique du générateur. Justement, sur la question de la performance aujourd'hui, il y a besoin d'un lieu spécial pour accueillir les performeurs. C'est le but du générateur, en fait.
Ah oui, c'est tout à fait le but du générateur, qui cherche des lieux où se produire, où ces choses. Et chaque fois, les artistes qui viennent au générateur disent à quel point c'est important pour eux que ce lieu existe et à quel point l'art contemporain, l'art aujourd'hui est chanceux d'avoir le générateur.
Mmh. Alors à côté de vous, il y a David Noir, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors vous êtes le performeur ce soir.
Non, j'ai pas l'intention de faire ça tout seul, comme je vous ai dit, mais on en parlera.
Ah oui, bah peut-être qu'on va finir effectivement l'émission avec quelque chose qui pourrait se rapprocher de la performance, encore que la grande question de la performance, c'est peut-elle être... à distance, peut-elle être répliquée? Est-ce que la performance, c'est pas le ici et maintenant, sachant que l'émission en plus est enregistrée, hein, voilà, on le dit, quelques 24 heures avant la diffusion, mais est-ce que ça reste une performance quand on la réécoute?
Non, mais la performance, effectivement, dans l'instant, d'abord, je suis pas un spécialiste de la performance, je la découvre au fur et à mesure que je la crée, et il y a des tas, évidemment, il y a toute une histoire de ça. Oui, non, moi je pense pas que ça nuise de capter, ça n'en change rien, on peut en parler avec les spécialistes de l'image et du cinéma et du documentaire, même si le documentaire est effectivement une œuvre, mais néanmoins ce qu'il capte est un instant du temps T et il n'est pas forcément, il n'existe pas moins, donc c'est pareil, on peut très bien enregistrer des choses, moi j'ai jamais vu de problème à ça. À la captation des choses, comme il n'y a pas de trahison là-dedans, c'est un temps.
Anne Dreyfus, la performance, ce moment qui commence le 3 octobre au générateur, qui dure jusqu'au 25 octobre, c'est l'occasion de quoi? C'est l'occasion de montrer, c'est l'occasion de montrer au public ce que c'est que le générateur, et de montrer aux artistes aussi, parce que c'est un lieu d'accueil assez généreux, le générateur.
Oui. Je pense que c'est un moment, oui, où on célèbre ce qui nous importe aujourd'hui en termes de création actuelle, c'est-à-dire des écritures qui sont très souvent transversales aussi entre les disciplines et l'espace s'y prête. Tout à fait, puisque de façon intuitive et par ma formation et mon expérience passée, je souhaitais surtout ne plus retrouver une dimension binaire entre les spectateurs et l'œuvre.
C'est ça, la scène et la salle, quoi.
C'est ça.
C'est vrai que cette grande salle dont on parlait il y a quelques minutes, ce grand cube qui est l'espace essentiel du générateur, bah forcément, quand on rentre dedans, on est sur un pied d'égalité, je ne sais pas si vous pouvez dire. Exactement. Fais ça de plein pied, en tout cas avec l'artiste.
Oui, je reste persuadée du potentiel que ça recèle, cette idée qu'on est au même niveau, on partage le même sol. Donc il n'y a pas d'estrade. Et chaque artiste, quand il arrive avec un projet, démarre avec une page blanche, finalement. Ce qui peut être, pour certains, c'est qui est très impressionnant et en même temps aussi un terrain de jeu formidable.
Oui, et au sens strict, c'est une salle
Absolument.
De jeu. Quasiment,
c'est une salle de jeu. Ce cube. Et ce qui aussi, je tiens à dire aussi qu'il n'y avait derrière le générateur, c'est un projet qui s'est fait de façon tout à fait empirique aussi. Donc, je découvre moi-même, en marchant, quel est le projet, finalement, qui est le sien. Et je tiens à ce que ça reste comme ça, parce que chaque rencontre le fait aller là où il doit être aujourd'hui. Et c'est grâce à des rencontres comme avec David Noir et d'autres artistes qui viennent maintenant un peu fidèlement présenter des créations que je comprends ce qu'il faut faire et ce qui me semble le plus adapté à l'attente aussi d'un certain public aujourd'hui.
C'est pour ça que c'est bien aussi de profiter du fait que ce frasque qui s'annonce pour le 3 octobre, c'est le 7e du nom. Donc, on comprend qu'on est sur le chemin, que le générateur est sur son chemin. Et ce 7e frasque, c'est... 3 semaines de rencontres. Il y a une 60aine d'artistes, quoi, au
c'est
moins,
ça.
Qui vont participer de près ou de loin à cet événement qui commence donc par un bal.
Oui, le bal rêvé d'Alberto Sorbelli, qui est une 3e mise en scène. Et là, je reviens juste à cette année. Peut-être la particularité est que on est dans des formats plus radicaux. À la différence des années précédentes où il y avait une programmation avec des rendez-vous par soirée avec 3-4 performances. On venait comme ça enchaîner des univers divers avec des artistes qui étaient aussi bien de la musique plutôt que du pictural, que de la vidéo, que de la danse. Là, on est dans des formats plus complets, c'est-à-dire un artiste par soirée. Bon, David, tu vas présenter Iconicum et le bal rêvé d'Alberto est un exemple aussi de cet format un peu extrême. Et ce bal rêvé est aussi un regard sur, pour lui, hein, sur le monde de l'art. Puisque il invite les populations aussi de Gentilly, des associations à intervenir. Donc c'est une partition qu'il prépare avec les uns et les autres, mais qui va finalement avoir lieu que le jour J. Il n'y a que des discussions. Et il y a un cadre, bien sûr, quand même une disposition de la salle qui va influer sur toutes les participations des uns et des autres. Mais c'est vraiment un grand saut pour tout le monde. Mais ce côté aigu et dangereux apporte une dimension humaine et festive unique.
Oui, voilà, et ce sera donc l'ouverture le 3 octobre. À noter aussi les 24 ans de la performance du samedi 17 octobre à 18h jusqu'au lendemain, le dimanche, à 18h aussi. Juste un mot sur performance et non pas performance. Au-delà du jeu de mots, c'est un mot qui existe, performer.
Absolument, j'ai découvert cette dimension historique et l'origine étymologique de ce mot. Et ayant depuis vraiment un moment une impression d'usure avec ce terme « performance
ouais. »
qui peut prêter à des tas de malentendus. Et j'ai trouvé que, allez, mettre ce mot à nouveau à l'ordre du jour, c'est bien sûr qu'une petite bouteille à la mer, mais le gratter, ce mot, le revitaliser me semble intéressant et apporte une nouvelle dynamique à ce terme maintenant utilisé par tout le monde, performance.
Alors, David Noir, vous allez faire partie donc des performeurs de cette 7e édition de Frasque à Gentilly au générateur, à travers notamment un moment qui s'appelle Iconicum et qui est précédé de rencontres avec vous parce que c'est quelque chose de totalement participatif. Ça, c'est tout à fait vous.
Oui, oui. Enfin, ça vient d'une forme d'atelier. C'est une... l'atelier, en fait, comment dire ça, l'atelier pédagogique, si on veut, la rencontre avec des spectateurs, du public, et puis les créations, les performances. En fait, pour moi, c'est quand même le même appartement avec différentes pièces. Hein. C'est pas pour rien non plus que ça se retrouve de plein pied aussi au générateur. Donc, c'est une autre façon... oui, de faire de la performance, si on veut, ça sera pas. Je m'y mets pas au centre, encore que. On sait jamais comment se passent les choses, mais bon, pour dire ça brièvement, Iconicum, c'est des grandes projections inspirées, enfin, de peintures classiques, romantiques, Renaissance, etc. Des musiques aussi, voilà, du romantisme, des choses extrêmement connues, des ouvertures d'opéra, qui mettent les gens dans un certain contexte d'improvisation. Qui, justement, parce que ces architectures sont énormes, monumentales, permettent des, petit à petit, et quelquefois timidement, et quelquefois au fil du temps de façon plus ample, d'exalter ce que j'avais envie de proposer là aux gens, c'était le sentiment du grandiose. Pas au hasard, mais parce que c'est quelque chose, pour moi, je m'intéresse beaucoup voilà, au sentiment d'enfance qu'on peut avoir en soi, à commencer par le mien, et qu'est-ce qu'on en fait. Et pour moi, ce n'est pas juste une anecdote, c'est quand même un outil de construction, et c'est une arme aussi. Et ce sentiment du grandiose, là, ce n'est pas des choses qui sont très, en fait, très mises en valeur. Aujourd'hui, on n'aime pas trop parler de l'ego, alors on entend, même à ce micro, on entend beaucoup de... Voilà, machin, oui, oui, mais non. Mais non, j'ai voulu vous parler de mon livre, mais non, ça n'est pas moi l'auteur. Et tout ça. Bon, au bout d'un moment, moi, ça bon, je fais de la scène aussi, je viens de là, je viens du théâtre. Hein, donc...
Faut assumer, quoi, c'est ça ? Faut assumer le
non
jeu.
Non seulement assumer, oui, c'est ça, tout à fait assumer. D'abord, c'est simplement que c'est plus profond que ça, si je peux me permettre de
bien
développer.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pas juste une affaire d'assumer. C'est à qui profite le crime ? Qu'est-ce qui se cache derrière le côté c'est pour ton bien, ne te mets pas trop en avant ? Bon, on sait un petit peu d'où ça vient. Ça crée des échelles de valeur, finalement, à ne pas vouloir trop parler de soi. Ben, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui se passent bien et des choses qui se passent moins bien, des choses qu'on peut faire, pas faire. Bon, évidemment, c'est la genèse d'une civilisation et surtout d'une société culturelle. Bon, est-ce qu'on a envie réellement de tout le temps respecter ça, écouter ça ? En tout cas, on a le droit de le questionner. Donc, c'est comme les émotions, si vous voulez, j'ouvre un peu, parce que c'est ce qui se passe dans ces ateliers-là, au travers de ces peintures qui exaltent un sentiment, comme ça, et exaltent aussi le grandiose. Bon, ce sont des mythologies, ça peut être le rêve, ça peut être... Mais on est des êtres humains, nous, là-dedans. Donc, on a toujours été ça. On est fait d'émotions, et on entend beaucoup, petit à petit, de choses qui passent comme des vérités qui ne le sont pas. Donc, on a un peu envie de parler des choses, tout simplement, c'est une forme d'archéologie. Donc, il y a des émotions qui ne seraient pas bien. La haine, ce n'est pas bien, par exemple. Mmh. C'est devenu comme ça, hein. Mais on est fait d'un certain nombre de choses. Moi, je les veux toutes. Je suis dans la matière humaine et je veux qu'on se serve de tout. Mmh. Après, de là à se prendre au sérieux sur chaque chose, non. Mais simplement, tout est là. Et c'est un postulat de l'enfance aussi. Et le caprice d'enfant, moi, il m'importe. Je l'ai toujours et je n'ai pas envie, de faire la place à autre chose par rapport à ça. Donc, c'est plutôt une bagarre bienveillante, mais comme dans les combats antiques retranscrits dans ces bas-reliefs, dans ces peintures, c'est il faut y aller. On va se faire front et il faut aller, il faut regarder les choses dans ce réel. Ça aussi, c'est un... Donc, on ne va pas pleurnicher parce qu'il y a de la souffrance. On ne va pas forcément s'exalter parce qu'il y a de la sexualité. On peut tout faire. Moi, il n'y a pas de limite. Les gens font ce qu'ils veulent là-dedans.
Ne pas se laisser parasiter par la morale.
Oui, ça, et non seulement la morale, mais la morale qu'on désirerait, ou ce qu'on désirerait projeter, ou ce qu'on désirerait voir. Donc ça amène à la notion d'auteur. Moi aussi, je vais vers la performance au travers et grâce à Anne et le générateur et à cette rencontre. Parce que je suis lassé de cette notion aussi d'auteur. Mais c'est très bien, ça m'a nourri pendant un temps, mais je n'ai pas besoin aujourd'hui qu'on me dise ce qu'on a dans la tête ou ce qu'on a à penser.
Moins d'auteur, ça veut dire plus de partage, alors avec le public en particulier ?
Je ne sais pas ce que c'est le partage. Ça veut dire que s'ils veulent sortir de cette zone d'ombre, ils peuvent.
D'accord.
Moi, c'est tout ce que je leur dis pendant ce truc-là. Ils sont là, il y a des gens qui vont peut-être initier les choses, je balance mes sons, ils y vont, etc. Et le questionnement avec le public, c'est là où peut y avoir performance, c'est un choix complètement légitime d'être de ce côté-là. Mais aujourd'hui, ça n'a aucune cohérence. On s'en fiche complètement, sauf si ça flatte votre vanité, mais comme on n'est pas à l'Odéon pour se dire « c'était formidable », ou « comme j'ai aimé ça », ou « un tel, tu as vu ceci », ou « j'ai pensé que », parce que les gens, ils pensent que. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est toute cette histoire d'avoir, de donner des valeurs aux choses. Des choses, ça s'entend dans les intentions aussi. Tout est intéressant hein, dans l'humain. Mais dès qu'on met, voilà, le son, c'est fait pour ça. C'est des temps, des suspens. Ça apprend tout ça, le théâtre. Je crois que. Mmh. Voilà, cette inflexion qui veut dire que c'est intime, que c'est profond et que c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr, moi, que ça soit vrai. Pas plus que ce que dit un homme politique en disant « attention, je crois que ». Ouais. Alors bon, Tout ça, c'est de la matière humaine. Moi, je fais simplement de la mettre. C'est un zoo humain. Il faut avoir envie d'y être.
Bon, alors, en avant-première de ce zoo humain, pour terminer cette émission, David Noir, je vais vous dire, voilà, on a ce que j'appelle un conducteur d'émission sous les yeux. Donc, voilà, et Véronique Lamandour, elle-même, sous l'autre côté de la vitre, dans la régie, qui réalise cette émission. Et là, j'ai juste écrit « La suite de l'émission m'échappe ». C'est-à-dire que c'est vous qui allez mener les choses pour terminer l'émission, une sorte d'avant-goût peut-être d'un partage, je ne sais pas si c'est le mot.
Oui, avec plaisir. En tout cas, c'est juste, voilà, ça n'a rien d'une prestation spéciale. C'est une, oui, on a parlé de ça, c'est un peu une méthode, une façon de faire, auquel je vous invite à participer si vous avez envie. C'est quelque chose pour faire vraiment, moi j'ai essayé de penser, à, je ne suis pas un homme de radio, mais j'essaie de penser à, je suis beaucoup auditeur par contre, et notamment de France Culture, donc j'ai essayé de penser qu'est-ce que, c'est difficile en fait de parler à des gens comme ça, au-delà, sans... en leur donnant une idée d'eux, leur donnant peut-être envie de quelque chose et surtout de voir que c'est, voilà, c'est une optique faisable. Donc oui, je vais vous proposer une façon de faire avec des textes. Moi, je balance souvent les choses parce qu'il y en a tellement dans le monde, il n'y a qu'à puiser. Hein, je parlais parfois de... ça pouvait être similaire à de l'improvisation de jazz parce qu'on parle de l'impro. Moi, j'ai horreur du match d'impro et tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit de faire avec ce qui passe une respiration et puis on la suit. C'est juste d'être dans la conscience. Donc, moi, j'amène des textes que je prélève dans le domaine public ou pas, les forums, Internet, tout ce qui fait notre vie. Ce n'est pas forcément des textes, on n'est pas obligé de les lire. On peut y réagir, il y a des images, on peut les commenter. Enfin, on vit, on est. Et puis, vous captez ça. Et puis, moi, je fais des trucs, je balance des sons et puis on voit.
Bah, nous, c'est Anne Dreyfus, c'est Herménie Vialet. Et puis, je vais appeler... j'espère, oui. Ouais. Vous aussi. Et puis, je vais appeler nos amis de la première partie de l'émission, Cédric Dupuy, Noa Garcia, et puis Corinne Bopp. Voilà. Venez au micro, Martin Verdet, si vous voulez participer à la... Enfin voilà, on verra qui parle.
Oui.
Sans obligation. Ou, David Noir, je vous en prie, mettez-vous en place.
Silencieux et discret, lâché sur un tapis brumeux d'étoffe. Ça va. J'ai ma couette comme Olympia.
Allô ?
Allô ? J'atteindrai peut-être mes années 60 sans une
de grâce. Montre-moi, je serai satisfait.
Et ça ira, ça ira.
Quand j'attends sa visite, moi, je prends toujours soin de me préparer
comme un aristocrate debout sans sa lanterne. Un matin, ou peut-être
afin d'être...
J'écoutais France Culture, il est 10h, tout de suite, la messe présentée par le frère Dominique.
On peut pour une femme expliquer ce billet.
J'arriverai quand même à terme.
Vous écoutez France Culture, il est 10h.
Apparemment, il faut être masqué.
Tout va,
j'en souhaite tous ces soins.
Qu'est-ce donc, général de vente ?
Qu'avez-vous ?
Alceste.
Qu'est-ce donc ?
Un jour pourtant, et je tombe d'accord. Et tout
qu'avez-vous ?
Ce qui vous plaît.
Céline. Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture.
Qu'est-ce donc ?
Il y a un système.
Prenez parti. Comme nous sommes très amoureux, il me serre contre lui, il m'embrasse et ses mains commencent à caresser mes fesses à travers ma jupe.
De grâce.
Impossible. Et ne me rompez pas.
Montrez-moi.
Vous écoutez France Culture, il est... Vous écoutez France
Culture. Statut conjugal, célibataire. Âge 89.
De grâce, montrez-moi, je serai satisfait.
Vous écoutez France Culture, il est 10h.
De grâce, montrez-moi, je serai satisfait.
On entend les gens, au moins sans se fâcher.
Qu'est-ce donc ?
Allô ?
À vous prêter les mains, ma tendresse consent.
Allez-y, là, je prends une facture
je
à moi.
Pas, là.
Je m'entends pas. Chère madame, je ne peux m'empêcher de vous exprimer le choc que j'ai ressenti à la lecture de votre courrier, signifiant le passage de mon découvert autorisé de 2100 à 150 euros le 16 mai.
Comme nous sommes
prochain.
Très amoureux,
et je veux qu'on le croit. Je m'en fous.
La de grâce.
D'accord, mais je t'aurais prévenu.
Montrez-moi.
Il y a des Allemands, des Brésiliens, des Américains, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Français.
Montrez-moi.
Elle n'était pas sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ?
Elle n'était pas. Oui, que voulez-vous qu'on fasse ? Elle
n'était pas. Sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ?
Franchement, David, ce texte.
Oui. Anne, dis-moi.
Il ne méritait pas l'amour.
Oh, mon amour, tu m'en fous. Je vais t'en
Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse ?
Oui, c'est mieux là. C'est mieux.
Je voudrais bien savoir.
Oui, c'est bien ça. C'est un peu partant derrière.
Qui pourrait me contraindre.
Et forcément, qu'elle signe par le fidèle.
Qu'avez-vous?
À descendre pour vous, on va la nettoyer, quoi.
C'est marifié.
Je comprends pas, mais la nettoyer, quoi.
Quel prix de moi, si mon cœur.
Oui. Vous êtes fou dans votre transport. Je veux qu'on soit sincère et qu'un homme d'honneur ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Vous êtes fou dans votre transport.
Je ne le dirai pas avec sincérité.
Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse?
Avec sincérité.
Vous êtes fou dans votre transport jaloux.
Vous écoutez avec sincérité. On entend les gens, moins sans se fâcher.
Et ne méritez pas l'amour qu'on n'arrive pas.
Vous êtes fou.
Ce soir, nous avons parlé cinéma, documentaire et performance. Les 20e rencontres du cinéma documentaire de Montreuil. Les oreilles ont la parole, c'est à partir du 8 octobre. Frasque, rencontre de la performance au générateur à Gentilly. Mais tous les liens, utiles et complémentaires, sur le site de Supersonic, sur franceculture.fr. Franceculture.fr, où l'on doit commenter, réécouter et podcaster, c'est obligé. Supersonic, c'est Inès De Bruyne à la préparation et à la coordination. C'est Véronique Lamando à la réalisation, c'est Delphine Baudet au son ce soir.
Je me forcerai moi de vous croire.
Vous écoutez France Culture, il est 10h. Vous écoutez France Culture, il est 10h. Vous écoutez France Culture, il est 10h. Vous écoutez France Culture, il est 10h.
Tout de suite, c'est demain et les nuits de France Culture. Bon week-end à vous et portez-vous bien.